Bien, je vous remercie tous d'être là. Et nous reprenons là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire au 22 septembre 1980, début de la guerre entre l'Irak et l'Iran, ce que j'appelle la première guerre du Golfe, ce qui nous en amène à trois et pas à deux, puisque les Américains, eux, comptent deux guerres du Golfe, moi j'en compte trois. L'une des conséquences de cette guerre, c'est l'isolement de la Syrie, qui en quelque sorte se précipite vers l'Union soviétique pour accepter ce qu'elle avait toujours refusé jusque-là, c'est-à-dire la conclusion d'un traité de paix et d'amitié entre les deux pays, ceci le 8 octobre 1980. Ce traité prévoit une coopération étroite entre les deux pays. Les parties contractantes, je cite, continueront de développer la coopération dans le domaine militaire sur la base d'accords appropriés. Le régime syrien explique que le traité est le moyen de rétablir l'équilibre entre Israël et les pays arabes, avec l'instauration au Proche-Orient d'un équilibre entre les deux grandes puissances. Immédiatement, Israël exprime son inquiétude pour Begin, je cite, « C'est un développement extrêmement dangereux. Nous avons toutes les raisons de penser que ce traité se double d'accords secrets qui constituent un danger non seulement pour Israël, mais encore pour le monde libre tout entier. » Alors, en effet, cet événement majeur qu'est cette guerre pose des problèmes stratégiques aux différents acteurs. Pour Israël, l'Iran, du fait de son éloignement géographique, ne constitue pas une menace, contrairement à l'Irak, dont l'appareil militaire se renforce constamment et qui a toujours suivi une ligne arabe dure dans le conflit. Donc, dès les premiers jours de la guerre, le gouvernement israélien propose son aide à l'Iran et, contraint par la nécessité, le régime révolutionnaire islamique de Téhéran accepte l'aide israélienne. Des contacts secrets sont pris en Suisse entre émissaires des deux pays. Très tôt, Israël livre clandestinement des armes, des pièces détachées et de la technologie militaire d'origine américaine à l'Iran de Khomeini, se faisant très largement payer au passage. Ce qui a le don d'exaspérer l'administration Carter, qui est toujours en pleine affaire des otages américains de Téhéran. Et donc les Américains protestent, Begin promet solennellement, ou en tout cas du bout des lèvres, d'arrêter les ventes d'armes à l'Iran, mais en fait, elle continue largement. Ce soutien militaire israélien, enfin ce soutien israélien au régime révolutionnaire iranien se retrouve aussi dans les sévères avertissements qu'Israël adresse à la Jordanie, qui est très impliquée du côté de l'Irak. Je cite Begin, en s'empressant de sauter dans le train irakien, le roi de Jordanie a encore fait une erreur politique qui sera lourde de conséquences pour son régime. Sharon triomphe en soulignant la vanité de l'option jordanienne des travaillistes et reprend son cheval de bataille que la Jordanie est l'État palestinien. Mais les complications stratégiques sont toujours plus fortes, puisqu'Israël doit à la fois prouver qu'il est un atout stratégique indispensable au monde libre pour contrer la progression soviétique au Moyen-Orient, et en même temps ameuter les Occidentaux face à la double menace que constituent l'alliance syro-soviétique et l'axe Amman-Bagdad, alors que ces deux axes-là sont en fait en conflit l'un l'autre. Donc Israël explique qu'il dispose de la meilleure armée du Moyen-Orient et que les relations avec les autres États de la région sont par nature instables. En même temps, l'État hébreu tente de s'opposer à des livraisons d'armement ou à l'envoi de militaires américains dans les pays arabes. Toute coalition des pays arabes sous égide américaine, même à des buts purement défensifs, paraît dommageable aux intérêts israéliens. De son côté, la Jordanie justifie devant les Occidentaux son choix par la nécessité de soutenir les États du Golfe face à la menace iranienne. En cas de défaite irakienne, il serait sans défense face à l'hégémonie iranienne ou contraint de se placer sous une humiliante protection américaine. Économiquement, la Jordanie profite du conflit, puisque privée par la guerre d'un débouché sûr sur la mer, l'Irak doit faire d'Aqaba, le grand port jordanien sur la mer Rouge, son principal port d'approvisionnement. Alors, la pauvre administration Carter paraît tout à fait désemparée dans cette conjoncture. Ce qu'elle peut faire, c'est envoyer 4 avions AWACS, c'est-à-dire des avions radars, en Arabie Saoudite pour assurer la sécurité du royaume et renforcer en même temps la présence navale américaine dans l'océan Indien et le Golfe. Mais tout le système stratégique américain dans la région a été construit face à une menace soviétique et ne prend pas en compte l'impact des conflits régionaux sur la région. Inévitablement, cette guerre Irak-Iran se déplace au Liban, où les ambassades des deux pays sont victimes d'attentats au début du mois d'octobre. Au clivage précédent s'ajoute clairement le basculement des chiites libanais dans le camp de Téhéran, alors que les Palestiniens sont dans celui de Bagdad. Les Israéliens continuent par ailleurs leur opération en profondeur. Le porte-parole de l'armée israélienne le 17 octobre se félicite de ces opérations qui paralysent et démoralisent les terroristes tout en épargnant les populations civiles. Il marque que les populations locales sont de plus en plus hostiles aux terroristes palestiniens, ce qui limite encore plus leurs opérations, mais il n'en donne pas les raisons. À cette époque, le mouvement Amal n'est pas encore un mouvement militaire structuré. C'est plutôt un regroupement populiste se voulant défenseur des intérêts sociaux et économiques de la communauté chiite. Très hétérogène, son recrutement va des militants islamistes radicaux aux réformateurs laïcs du système libanais. Au sud, il est plutôt composé de milices locales. Je crois que je me suis trompé de fichier ici, mais ce n'est pas grave. D'autodéfense qui se reconnaissent dans le discours du mouvement sans en être nécessairement affiliés. Les chiites veulent chasser les forces communes, c'est-à-dire les palestino-progressistes, de leur village et mettre fin à leurs diverses déprédations. Le faible niveau d'organisation d'Amal ne lui permet pas encore d'être une force puissante, mais incontestablement, les palestino-progressistes ne disposent plus du soutien de la population. Et les Israéliens peuvent se féliciter de cette situation, tout en ne comprenant pas que le matraquage systématique du Sud, avec de multiples destructions, a engendré une haine viscérale à leur égard que ravive le soutien accordé à l'armée du Liban Sud de Sarnhadad. Celle-ci tolère que les Israéliens, pour des raisons de sécurité, en tout cas, c'est le prétexte avancé, procède à des annexions de fait de parcelles de territoire libanais en déplaçant les bornes frontières. Alors, le gouvernement libanais demande toujours le rétablissement de la commission d'armistice avec Israël, mais Israël exige que les entretiens se fassent au niveau des chefs d'état-major des deux armées et que ça se tienne dans les deux capitales, ce qui ne reviendrait donc à des relations d'État à État. Finalement, une réunion a bien lieu le 1er décembre, mais elle est purement formelle à la frontière. Israéliens et Libanais lisent des textes préparés à l'avance. Israël se refuse absolument au rétablissement de l'ancienne commission d'armistice. Le 21 octobre, le Liban se dote d'un nouveau gouvernement dirigé par une personnalité sunnite considérée jusque-là comme de second plan. Shafiq Wazan. C'est un notable représentant le milieu de Beyrouth. Les progressistes et Amal sont nettement hostiles à ce nouveau gouvernement. Et Elias Sarkis, le président libanais, est le premier à ne pas se faire d'illusions. Sa mission est maintenant de gérer les affaires et d'éviter le pire dans l'attente des élections présidentielles de l'été 1982. Et Elias Sarkis rapproche de Bachir Gemayel, qui lui apparaît clairement comme l'homme fort de la région chrétienne. Dans ses entretiens avec lui, Sarkis insiste sur la nécessité de respecter la légalité. L'objectif est commun, réduire la présence des Palestiniens et leur influence sur les milieux musulmans. Et l'entente se fait entre les deux hommes sur la base de la phrase du jeune chef de guerre. Il faut que vous preniez de notre folie et que nous prenions de votre sagesse. De ce fait, Sarkis encourage un certain nombre de responsables de son entourage à travailler directement avec Bachir Gemayel afin de l'aider à se doter d'un véritable programme de gouvernement. Donc là, on est dans un basculement important puisque, en fait, la légalité libanaise est en train de basculer du côté de Bachir Gemayel. Le 3 octobre 1980 a lieu à Paris un attentat contre la synagogue de la rue Copernic qui fait 4 morts, 46 blessés et de nombreux dégâts matériels. Le Premier ministre Roland Barthes se déclare, je cite, plein d'indignation pour cet attentat odieux qui voulait frapper les Juifs se trouvant dans cette synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Cette déclaration plus que malheureuse le poursuivra pendant plus de 3 décennies jusqu'à sa mort récente. Alors, comme souvent, la polémique se fonde sur des citations tronquées parce qu'il avait aussi déclaré « La communauté juive est une communauté française qui est respectée par tous les Français. » Mais ça, évidemment, cet élément de la déclaration est passé à la trappe. Et on peut d'ailleurs juger que le lapsus de Roland Barthes s'explique surtout de l'expression « civil innocent » qui ne veut à peu près rien dire en soi. Vous savez, quand un attentat, on déplore les civils innocents, ce qui voudrait dire peut-être qu'il y a des militaires coupables, mais ces expressions vides de sens que l'on répète extrêmement souvent. Alors, le fait est que tout le monde accuse l'extrême droite néo-nazi d'être responsable de l'attentat. Et comme on est déjà presque en campagne électorale pour les présidentielles en France, il y a une exploitation politique de l'attentat, en particulier par les forces politiques de gauche. Alors ça se justifie cette imputation parce qu'il y avait eu récemment un grave attentat à Bologne, en Italie, dû à l'extrême droite italienne. Donc on pensait que c'était sur le modèle italien. Mais l'enquête policière va se tourner rapidement vers une piste moyen-orientale. Il s'agirait d'un groupuscule libanais issu de la nébuleuse de Wadi Hadad, le FPLP commandement spécial. L'action judiciaire reprendra en 1999 et en 2008, un mandat d'arrêt international sera émis contre un professeur de sociologie au Canada d'origine libanaise qui serait l'exécutant de l'attentat. La procédure judiciaire est en cours puisque l'audience d'extradition a lieu, je crois, il y a 2 jours à Ottawa. Donc, on n'a pas encore les résultats de la procédure d'extradition lancée par la France pour faire venir cette personne. Alors, en Israël, Begin explique que l'attentat est lié à la politique inamicale de la France envers Israël qui alimente indirectement l'antisémitisme. Et quant à Sharon, il déclare que son pays est prêt à assurer la protection des Juifs de France, ce qui évidemment accroît la tension entre les deux gouvernement. Ceux qui sont en campagne électorale pour l'instant, ce sont les États-Unis. Et Reagan apparaît comme le favori. Il se présente comme l'ami d'Israël. Il définit l'OLP comme une organisation terroriste et trouve légitime les implantations dans les territoires occupés. Alors Carter obtient de l'Égypte la tenue d'une session formelle des négociations sur l'autonomie à Washington, ceci simplement pour montrer que la diplomatie continue de travailler durant la campagne électorale. Mais l'impasse est totale. Alors on va se greffer dans cette affaire ce qu'on appelle l'affaire de la surprise d'octobre, qui serait la suivante. Voilà, donc je donne l'affaire. Il y aurait eu, très conditionnel, des contacts entre l'Iran et les républicains américains. Les républicains américains auraient demandé à l'Iran de ne pas relâcher les otages avant le jour des élections pour ne pas provoquer un vote favorable au président Carter. Et en échange, les républicains se serait engagé à fermer les yeux sur la reprise des livraisons clandestines faites par Israël à l'Iran. Il est certain que si les otages américains avaient été libérés avant le 4 novembre 1980, ça aurait facilité le président Carter. Mais rien n'a pu être prouvé du fait que toutes les informations sur cette affaire viennent du milieu particulièrement trouble des ex-agents secrets, des marchands d'âmes et des intermédiaires voulant se faire passer pour des émissaires d'un camp ou de l'autre. Jusqu'au bout, la direction des partis républicains a eu la hantise de cette surprise d'octobre qui aurait changé le cours des élections. La seule chose qui est certaine, parce que nous l'avons dans les sources arabes, c'est qu'un émissaire arabo-américain a contacté l'OLP et s'est présenté à Bassam Abou Sharif, un des profs d'Arafat, comme étant un émissaire de Reagan, proposant de fournir une lettre de Reagan offrant aux Palestiniens de leur offrir la porte de la Maison-Blanche s'ils retardent la libération des otages américains. On organise une rencontre avec Yasser Arafat qui se méfie, car il considère à juste titre qu'une telle lettre ne peut pas exister. L'émissaire reconnaît que Reagan lui a promis la lettre, mais qu'il ne lui a jamais donné sous divers prétextes, et de toute façon, l'OLP aurait été totalement incapable d'obtenir quoi que ce soit de Téhéran. Donc, il y a bien quelqu'un qui s'est présenté à l'OLP sur ce dossier, mais est-ce qu'il était mandaté par quelqu'un d'autre, ça, rien ne peut le démontrer. L'autre élément incontestable du dossier de la surprise d'octobre a été la tolérance accordée par la nouvelle administration Reagan, en tout cas durant les premiers mois, nous le verrons, à la reprise des livraisons de matériel militaire américain par Israël à l'Iran. Et comme vous le savez, les otages ont été libérés le jour de la passation des pouvoirs, donc le 21 janvier 1981. Mais par ailleurs, les négociations pour la libération des otages étaient extrêmement complexes du fait des règlements d'un certain nombre de questions matérielles portant en particulier sur le gel des avoirs iraniens aux États-Unis. Ce qui, indépendamment du reste, aurait rendu difficile une surprise d'octobre, parce que si on a tardé à livrer les otages, c'est que la négociation sur le dégel d'une partie des avoirs irakiens a mis plusieurs semaines. Donc ça va contre la thèse de la surprise d'octobre. En tout cas, le 4 novembre 1980, Ronald Reagan remporte largement les élections présidentielles par 51% des voix contre 41% des votes populaires, un indépendant ayant eu 7%. Les raisons de l'échec de Jimmy Carter sont multiples. Les républicains ont joué sur la question économique avec la très forte inflation de la période et sur la difficulté des politiques étrangères, symbolisée par l'affaire des otages. Sur le plan intérieur, ils ont réussi leur stratégie sudiste, faisant passer une grande partie des évangélistes américains du côté républicain, en insistant sur la question des mœurs. L'insistance sur la question de l'autonomie palestinienne a certainement fait perdre à Carter la majorité du vote juif, mais ce n'est qu'un facteur relativement marginal dans sa défaite. D'ailleurs, le Parti démocrate, globalement, recule aux élections de novembre, aussi bien à la Chambre des représentants et au Sénat. Néanmoins, Carter sera persuadé que sa défaite est liée en partie à la question de la défection de l'électorat juif, mais il le prend plus en amont dans le fait que dans les primaires, les Juifs auraient soutenu la candidature d'Edward Kennedy, ce qui a affaibli Carter avant d'arriver à l'élection définitive. Beaucoup de contemporains, j'ai déjà souligné, ont accusé Carter d'avoir eu une présidence faible et en général, les historiens aujourd'hui sont beaucoup plus indulgents s'ils ont à émettre des jugements, ce qui est une autre question. Car Carter est quand même l'homme qui a relancé l'armement américain, donc qui a commencé le réarmement de l'armée américaine dès 1979, engagé la Seconde Guerre froide contre l'Union soviétique, tenté de réaménager les relations avec l'Amérique latine, et il a été le premier à vouloir faire des droits de l'homme l'axe principal de la politique étrangère. Il a aussi voulu modifier la politique de l'énergie dans son pays en combattant les gaspillages. Et enfin, c'est sous Carter qu'a commencé, pour le meilleur ou pour le pire, la dérégulation économique. Et puis j'ai parlé de la politique de Paul Volcker de hausse des taux d'intérêt, qui est un élément essentiel de l'histoire financière de la fin du XXe siècle. Donc, exit le président Carter, même si nous aurons l'occasion d'ici quelques années de le retrouver, puisque devenu champion des droits de l'homme sur le plan international, l'ex-président américain interviendra régulièrement dans un ensemble de dossiers, dont ceux du Moyen-Orient. Ça lui vaudra d'ailleurs un prix Nobel de la paix bien plus tard. Alors, nous allons maintenant aborder un nouveau chapitre qui sera beaucoup plus cohérent que celui qui vient de se terminer. L'incohérence du précédent chapitre était liée de la succession d'événements dans toutes les différentes parties du Moyen-Orient qui faisait qu'il y avait un espèce de brouillage des perspectives. Mais ce brouillage des perspectives n'est pas une invention de l'historien, c'est d'abord ce que connaissent les acteurs. Tandis qu'à partir du début de la présidence Reagan, nous entrons dans un compte à rebours qui on pourra appeler tout simplement chronique d'une guerre annoncée, parce que c'est celle qui va conduire à la guerre de juin 1982. Là, nous avons une trame narrative tout à fait forte. Alors, je commencerai ce chapitre par citer les confidences de l'ancien ambassadeur américain à Beyrouth en 1982, Robert Dillon, qui écrit dans entretiens oraux, je vous donne la retranscription évidemment, ses souvenirs sur le Liban, qui vous donne tout à fait l'ambiance. Je n'ai jamais rencontré une personne au Liban qui soit un vrai admirateur d'Israël. Les Israéliens étaient vus comme des gens durs, brutaux, faisant une politique réaliste. Les Libanais méprisaient les prétentions israéliennes d'être humanitaires. Il y a un côté idéaliste en Israël, mais quand vous étiez au Liban, il est très, très difficile de se le rappeler. Les Israéliens étaient durs et arrogants. Les Libanais qui ont été recrutés par Israël étaient également durs et brutaux. Le côté idéaliste du sionisme ou de la vie juive n'était pas montré au Liban. Même les Maronites, qui s'étaient profondément impliqués du côté des Israéliens, les ont fondamentalement détestés et s'en sont beaucoup méfiés. S'il y avait quelque chose d'idéaliste au sujet de l'Israël, Bachir Gemayel, leur allié, ne s'en serait pas rendu compte. Il n'a pas vu cet aspect, bien qu'il ait admiré leur dureté. Il pensait que les Israéliens avaient raison de penser que les seuls bons Arabes étaient les Arabes morts. Sa perspective a plus tard changé, mais quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était bien son point de vue. Ah, donc ça, c'est évidemment un texte très postérieur de Robert Dillon, qui, autre part, dit cette formule absolument magnifique. Bachir Gemayel était un garçon absolument délicieux quand il n'était pas occupé à massacrer les gens. Ah, et c'est un peu aussi dans ce chapitre que nous verrons l'ascension de Bachir Gemayel. Alors, la victoire électorale de Reagan a été bien reçue en Israël, en particulier en raison de ses déclarations approuvant les thèses israéliennes et la crainte de voir un Carter réélu et particulièrement remonté contre le gouvernement Begin. On se réjouit de revoir une Amérique forte, tout en s'inquiétant du risque que cela pourrait faire émerger pour Israël. La droite israélienne se félicite de la convergence des politiques économiques. Pour la même raison, cette élection provoque la méfiance des Palestiniens. Pour la majorité des analystes, la nouvelle administration appliquera la politique de Camp David, avec certainement un style très différent. Sadat est certainement touché par la défaite de son ami Carter. Mais l'indispensable pour lui est de rester dans les lignes définies par Camp David. Il s'oppose à l'option jordanienne soutenue par les travaillistes israéliens et qui semble intéresser Reagan. Les Jordaniens auront un rôle à jouer pour Sadat, mais après l'établissement du régime d'autonomie. Néanmoins, Sadat semble apporter son soutien à Peres, qu'il trouve moins dogmatique que Begin dans les prochaines élections israéliennes. Il est évident qu'aucune initiative politique majeure n'aura lieu avant la prise de fonction de la nouvelle administration américaine. Quand Begin vient le 13 novembre à Washington, c'est juste une rencontre de courtoisie. Carter a gelé la décision de livrer des avions de combat à l'Arabie saoudite, décision prise à cause de la guerre du Golfe, mais il en laisse la responsabilité à l'administration suivante. De toute façon, Begin est obligé de rentrer d'urgence en Israël parce que sa majorité à la Knesset est chancelante. L'inflation dépasse du 100% pour la deuxième année consécutive. En Cisjordanie, les manifestations de jeunes sont durement réprimées. Et au sein du Parti travailliste, Peres a été réélu à la direction du parti sans aucun problème, avec 70% des voix contre 28%. Donc la tête de liste aux élections israéliennes sera Peres. L'extrême droite parlementaire a introduit un projet législatif portant sur l'annexion du Golan, mais le gouvernement Begin y est hostile et gèle la procédure. Au mois de janvier 1981, la coalition gouvernementale israélienne se disloque en raison des problèmes économiques. Et Begin décide de tenir des élections anticipées. Elles auront donc lieu le 30 juin et non pas au mois de novembre comme prévu. Les premiers sondages indiquent une victoire écrasante des travaillistes conduits par Shimon Peres. Du côté arabe, la Syrie s'oppose à la réunion d'un sommet arabe prévu à Amman pour le 25 novembre. Elle ne veut pas voir l'axe Irak-Jordanie-Arabie Saoudite l'emporter. L'OLP étant une médiation entre les partis opposés, mais en vain, elle doit s'incliner devant les exigences syriennes ainsi que le Liban. L'Algérie et le Yémen du Sud adoptent la même position, donc le 11e sommet arabe n'apporte pas grand-chose. Et immédiatement, la Syrie concentre des forces à la frontière jordanienne et la Jordanie réplique les mêmes mesures. On parle d'une guerre imminente entre les deux pays. l'Irak promet de soutenir militairement la Jordanie. Le roi Hussein s'interroge sur une éventuelle volonté de Damas d'instaurer un pouvoir palestinien à Amman, autrement dit Hafez al-Assad, Ariel Sharon, même combat. Cette crise au bord du gouffre se calma rapidement, mais le roi Hussein s'est inquiété de la faiblesse de son armée et cherche d'obtenir des Américains une accélération des livraisons d'armement. Une fois rassuré, le gouvernement jordanien relance la campagne de presse anti-syrienne, relatant sur un ton factuel les troubles en Syrie, dans les combats entre le pouvoir et les frères musulmans, et la dureté de la répression. Un raid israélien en profondeur au Liban fait 7 morts le 19 décembre, dont 3 soldats syriens. La nouveauté, c'est que le raid israélien a lieu au-delà de la ligne rouge qui est censée séparer les intérêts israéliens et les intérêts syriens au Liban. L'armée syrienne réplique en bombardant les secteurs tenus par l'ALS, l'armée du Liban Sud, mais les Israéliens refusent l'escalade en affirmant que les soldats syriens n'ont pas été délibérément attaqués par les Israéliens. Ce qui se passe, c'est qu'après la réunification par la force des milices chrétiennes par Bachir Gemayel, c'est-à-dire l'élimination de la milice des Chamoun, quelques anciens miliciens des Chamoun se sont réfugiés dans la ville chrétienne de Zarleh, dans la Bekaa. Et se sont mis en relation avec les Palestiniens et les Syriens. Donc d'anciens miliciens chrétiens sont passés du côté palestinien et syrien. Bachir Gemayel envoie des éléments des forces libanaises les chasser de la ville en décembre 1980. Les affrontements durent plusieurs jours et la force arabe de dissuasion, donc l'armée syrienne, met le blocus devant la ville de Zarleh. Le 30 décembre, le blocus est levé, mais l'affaire n'est pas réglée parce que la Syrie considère que la Bekaa est une zone vitale pour assurer la sécurité de la Syrie, puisqu'en passant par la Bekaa, l'armée israélienne pourrait contourner la ligne de front du Golan. D'où des affrontements entre les forces libanaises, l'armée israélienne, des affrontements, des raids aériens des deux côtés. Alors, dans ce contexte, Bachir Gemayel a recontacté les Israéliens pour leur faire expliquer par une délégation que son but politique est de prendre le pouvoir au Liban par la voie constitutionnelle et de chasser les Palestiniens et les Syriens du pays. La délégation libanaise a été reçue par Itzhak Shamir le 15 octobre 1980 et le ministre israélien des Affaires étrangères approuve la stratégie et s'engage à modifier l'image que les Américains se font de Bachir Gemayel, c'est-à-dire un chef de gang et un terroriste. Le 17 décembre, le chef de l'état-major de l'armée israélienne, le général Eitan, se rend à Jounieh par hélicoptère, accompagné de responsables de services secrets. Il informe Bachir Gemayel que l'armée israélienne va intensifier ses attaques pour briser le potentiel militaire des Palestiniens et s'engage à livrer de nouveaux armements aux forces libanaises, dont des blindés. Dans les mois qui suivent, Bachir Gemayel devient l'un des interlocuteurs de l'ambassade américaine à Beyrouth, tandis que d'autres contacts sont pris entre lui et ses proches avec la CIA. Autrement dit, la CIA commence à financer directement les forces libanaises. Le nouvel ambassadeur américain à Beyrouth, donc Robert Dillon, considère que Bachir Gemayel est plus qu'un chef de guerre, et qu'en lui donnant une bonne éducation politique, il pourra faire un chef d'État éventuellement. De son côté, Sarkis a encouragé l'armée libanaise, dont la majorité des cadres supérieurs est chrétienne, à collaborer avec les forces libanaises. Le lien entre l'armée libanaise et les forces libanaises est confié à un colonel fort ambitieux, le colonel Michel Aoun, qui devient donc un des proches de Bachir Gemayel. En même temps, des émissaires désignés par Walid Jumblatt et Bachir Gemayel travaillent à un accord politique éventuel entre les forces libanaises et le Parti socialiste progressiste des Jumblatt. Mais quand la Syrie, quand Assad apprend l'existence de ces contacts secrets entre Bachir Gemayel et Walid Jumblatt, il se fâche et fait savoir à Walid Jumblatt qu'il faut rompre les contacts avec Bachir Gemayel. L'anecdote aurait voulu que Walid Jumblatt ait été convoqué à Damas dans le bureau présidentiel et qu'un Hafez al-Assad lui a dit « Ah, c'est exactement ce que je disais à votre père quelques semaines avant sa mort. » Et Walid Jumblatt aurait parfaitement compris le message. Donc, assis de cette première crise de Zarlé, Bachir Gemayel a obtenu un nouvel engagement de la part des Israéliens. L'armée israélienne donnera une couverture aérienne aux forces libanaises stationnées à Zarlé au cas où les Syriens utiliseraient leur propre aviation. 25 janvier 1981 se tient le sommet de la conférence islamique à Taïf en Jordanie, ce qui remplace le sommet arabe défaillant. Le roi Hussein renouvelle son opposition formelle à toute option jordanienne. Sarkis parle fort et explique que le Liban ne peut plus supporter les conséquences désastreuses des opérations militaires que lancent les Palestiniens contre Israël à partir de son territoire. La déclaration du sommet appelle au djihad pour libérer Jérusalem. Je cite, « Nous sommes déterminés à une résistance totale contre l'agression sioniste et nous refusons le complot international qui a favorisé cette agression. Nous sommes également déterminés à défendre par les moyens pacifiques nos patries et nos droits et à combattre les injustices que nous subissons. Nous faisons le serment de mener le djihad avec tous les moyens disponibles pour libérer Jérusalem et faire de cette lutte la grande cause islamique. » Mais ce djihad est surtout entendu comme la mobilisation des ressources et non pas comme une lutte armée. En dehors de son fort anticommunisme et de sa sympathie pour Israël, la pensée politique de Reagan en politique étrangère était pratiquement inconnue. À dire vrai, lui-même ne devait pas en savoir grand-chose. Sa plus que médiocre connaissance du monde extérieur ne lui facilite pas la tâche. Il est tributaire de ses conseillers et des fiches que ces derniers lui préparent. En général, quand Reagan rencontre une personnalité étrangère, il a tout un paquet de fiches que ses conseillers lui ont préparées et il lit les fiches. Pas plus. Durant la campagne électorale, il n'a pas parlé du processus de paix et n'a pas envisagé le Moyen-Orient, enfin n'a envisagé le Moyen-Orient que dans le cadre de la nouvelle guerre froide. Il semble en apparence avoir adopté les positions des néoconservateurs de son entourage qui font d'Israël, l'Égypte et l'Arabie saoudite les alliés locaux des États-Unis contre l'Union soviétique, cause de tous les troubles dans le monde. Mais Reagan n'est pas la marionnette des néoconservateurs ou des conservateurs en général. Le grand communicateur a une empathie profonde avec la vision commune du peuple américain. Il croit au mythe américain dont il est aussi l'expression. Il a une conviction profonde sa répulsion envers toute possibilité d'apocalypse nucléaire et verra très tôt le risque d'un Armageddon atomique ou religieux au Moyen-Orient. D'ailleurs, il ne fait pas vraiment la distinction entre une fin des temps nucléaires et l'accomplissement des prophéties religieuses. Dans le journal de Ronald Reagan, qui est un document absolument passionnant, qui a été publié il y a maintenant quelques années, 2 ou 3 ans, quand on arrive au Moyen-Orient, régulièrement le mot Armageddon, c'est-à-dire apocalypse, apparaît. En fait, si son ton est des plus combatifs, Reagan est particulièrement avare dans le recours aux instruments militaires. Autrement dit, la présidence de Reagan va avoir une accélération du réarmement américain, mais avec une volonté profonde du gouvernement Reagan de ne pas utiliser cet armement, contrairement à ses successeurs. Contrairement à Carter, il ne s'intéresse pas aux détails, s'en tenant à quelques lignes générales assez grossières. Alors, les nominations des responsables en politique étrangère vont plutôt dans le sens des néoconservateurs. Le nouveau secrétaire d'État, Alexander Haig, a été un adjoint de Kissinger, puis le chef d'état-major de la Maison-Blanche de Nixon au moment du Watergate. Le secrétaire à la Défense, Gaspard Wenbenger, était connu pour ses liens avec l'Arabie Saoudite. Le conseiller à la sécurité nationale, Richard Allen, paraît avoir un rôle effacé. De toute façon, il ne restera en fonction que quelques mois. Il sera rapidement remplacé. Le nouveau chef de la CIA, William Casey, est un activiste qui a servi dans le renseignement durant la Seconde Guerre mondiale et il profite de cette situation pour livrer sa propre guerre secrète contre l'Union soviétique. Haig maintient pour l'essentiel la même équipe de diplomates professionnels qui gérait le dossier du Moyen-Orient sous Carter, bien qu'il soupçonne certains d'être des arabistes, c'est-à-dire, en terme américain, quelqu'un qui aime trop les Arabes. En revanche, la nouvelle administration prend ses distances avec la politique de Camp David, dont le premier tort est d'être identifié avec Jimmy Carter. Il est impensable de voir un Reagan s'impliquer dans le dossier de la façon dont Carter l'avait fait. Alors que le début du mois de février connaît les habituelles opérations préventives israéliennes au Liban et des combats aériens entre l'aviation syrienne et l'aviation israélienne au-dessus du Liban, et que la tension demeure entre la Syrie et la Jordanie, la politique israélienne est un peu en retrait dans ce moment-là à cause de la campagne électorale en Israël. Il n'est pas question que Begin se rende à Washington parce que ça donnerait l'impression que les Américains le soutiennent dans la campagne électorale. On ne peut pas inviter Sadat non plus pour la même raison, parce que ça donnerait l'idée que les États-Unis préfèrent l'Égypte à Israël. Alors Sadat, lui, se rend en Europe pour demander la participation de l'Europe dans la restauration des droits des Palestiniens et de jouer une médiation qui permettrait une reconnaissance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens. Il est bien reçu à Paris, alors que Valéry Giscard d'Estaing avait plutôt désapprouvé les accords de Camp David, mais en France aussi, on entre en campagne électorale. Et Sadat est plutôt populaire dans l'opinion publique française. Et puis, au-delà de cela, même s'il y a eu une indifférence sur Camp David, la France et l'Égypte coopèrent dans le dossier tchadien contre la Libye. Il faut rappeler que dans toute cette période, l'armée française est engagée au Tchad contre les ingérences libyennes. Donc, il y a des actions qui sont menées en commun entre Français et Égyptiens au Tchad. la normalisation entre l'Égypte et Israël progresse. Les échanges économiques sont en faveur de l'Égypte du fait de la livraison de pétrole. En un an, 30 000 touristes israéliens se sont rendus en Égypte. Par contre, il n'y a eu que 1500 Égyptiens, pour la plupart des fonctionnaires en mission, qui se sont rendus en Israël. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la tension politique sur la question palestinienne qui est forte. Ensuite, Israël n'est pas attractif pour l'élite égyptienne. Pour les Égyptiens, pour la grande bourgeoisie égyptienne, Israël, c'est un petit pays dont aucune ville ne dépasse le million d'habitants. Ce sont des provinciaux, puisque le Caire fait 10 millions d'habitants, Alexandrie 3 millions, etc. Et l'élite égyptienne préfère tout simplement aller aux États-Unis ou en Europe plutôt que d'aller en Israël. Les professions intellectuelles et économiques ne veulent pas aller en Israël parce que ça risquerait de leur interdire l'accès aux pays du Golfe où ces gens se rendent pour leur travail. Enfin, il faut ajouter les blocages permanents que la bureaucratie égyptienne met au visa pour l'Égypte, pour Israël, et d'autre part, la sévérité des contrôles de sécurité israéliens qui rend tout à fait inhospitalière l'accueil de la part d'Israël, parce qu'en général, si vous êtes un arabe et que vous passez le poste frontière, vous êtes soumis à un interrogatoire de 2 ou 3 heures, ce qui, évidemment, ne favorise pas le tourisme. La stratégie égyptienne est de fournir, en matière de normalisation, ce qui est nécessaire pour assurer l'évacuation progressive du Sinaï, mais pas plus. Après les promesses d'un avenir radieux, suite à la paix, la désillusion de l'opinion publique égyptienne est certaine et se traduit par une baisse considérable de la popularité de Sadat, un Sadat qui de plus en plus prend ses distances par rapport à la société égyptienne. Il est de moins en moins présent au Caire, il est de plus en plus dans ses résidences de province. Il y a visiblement une perte de contact qui se perd dans cette période. De toute façon, il n'est pas question de négocier sur l'autonomie palestinienne tant que la campagne électorale israélienne ne sera pas terminée. Pour le Caire, maintenir une position ferme sur le dossier palestinien est la condition indispensable pour mettre fin à l'isolement de l'Égypte dans le monde arabe. Une fois l'évacuation du Sinaï obtenue, on pourra revenir à la charge sans le moindre risque. Donc, pour l'instant, on doit adopter le discours de la nouvelle administration américaine en affirmant que seule une solution juste du problème palestinien permettrait d'endiguer la marée soviétique. Et en fait, entre l'Égypte et Israël, c'est la course à savoir qui se montrera le plus ardemment anti-soviétique. Comme il se doit, cette adaptation est interprétée à Washington comme une approbation de la nouvelle analyse de la région en termes de guerre froide. Là, on est dans une figure absolument classique des relations entre l'Occident et le monde arabe. Les Occidentaux tiennent un certain discours. Les locaux adoptent le discours des Occidentaux parce qu'ils ont besoin de certaines choses de la part des Occidentaux. Et comme les Arabes ont adopté le discours des Occidentaux, ça montre aux Occidentaux que leur discours est vrai. Hein? Et ça, c'est perpétuel comme figure. Cette volonté proclamée du gouvernement Begin de multiplier les faits accomplis en Cisjordanie afin de rendre irréversible la présence israélienne avant les élections du 30 juin suscite aussi de nouvelles tensions dans les territoires et avec des manifestations populaires. Premier dossier gênant, Isaac Shamir se rend à Washington le 24 février 1981 et Alexander Haig l'informe de la décision définitive de l'administration Reagan de vendre des avions Hawks à l'Arabie Saoudite ainsi qu'un renforcement de son aviation militaire. Shamir marque l'opposition résolue de son pays à tout renforcement du potentiel militaire de l'Arabie saoudite et de tout pays arabe en général. Pour l'apaiser, on lui propose la livraison à Israël de nouveaux chasseurs F-15. Egg et Reagan ont le sentiment que Shamir a accepté le compromis. En ce qui concerne l'application du traité de Washington, la partie israélienne exige avant toute chose la constitution d'une force multinationale dans le Sinaï, et les Américains s'engagent à y travailler activement. À la grande surprise de l'administration Reagan, Israël lance au mois de mars une violente campagne contre le projet de vente d'armes à l'Arabie saoudite. Et les amis d'Israël aux États-Unis s'y associent immédiatement. C'est dans ce contexte que Haig se rend au Proche-Orient juste après que le président Reagan ait été victime d'un attentat. Il vient plaider pour la constitution d'un axe stratégique, d'un consensus stratégique plutôt, entre Israël, l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite face à l'Union soviétique. Avant même son arrivée l'arrivée de Haig, le Liban Sud est en feu. Durant tout le mois de mars, Israéliens et Palestiniens se sont opposés par la force à une nouvelle tentative de déployer l'armée libanaise dans la région. À partir du 31 mars, la LS et l'armée israélienne bombardent tout le secteur et mènent des raids offensifs dans les zones contrôlées par la FINUL et les forces communes. Le 1er avril, l'épreuve de force reprend à Zarleh, qui se trouve bombardée par l'armée syrienne. Puis, le 2 avril, les bombardements s'étendent à la région de Beyrouth. Les Syriens tentent ainsi d'imposer un retrait des forces libanaises de Zarleh. Quand on reprend la séquence des événements, on en est en face de trois actions séparées à l'origine. L'action conjuguée de Sadr Haddad et de l'armée israélienne au sud, une situation confuse à Zarleh où chacun de bonne foi peut croire que l'autre a pris l'initiative des combats, et enfin une volonté syrienne d'intimider les chrétiens par un impitoyable bombardement qui a pour effet contradictoire de rallier les chrétiens autour de la personnalité de Bachir Gemayel. Le 4 et le 5 avril, Haig est au Caire. La question libanaise s'impose au milieu des discussions sur le processus de paix et le consensus stratégique. Il rassure ses interlocuteurs égyptiens. Je cite « Ceux qui pensent que nous donnons la priorité au consensus stratégique au détriment du processus de paix ont tort. Les deux problèmes sont intimement liés et ont la même importance. » Le 5 avril, Haig est en Israël. Et là, on discute encore de la question libanaise. Shamir déclare publiquement « Israël ne saurait rester indifférent, les bras croisés face au massacre de l'autre côté de sa frontière d'une population civile innocente par l'action conjuguée des Syriens et des Fedayines. » La question est de savoir si Israël limitera son action au Liban Sud, où on se bat d'ailleurs, ou s'il étendra son action jusqu'aux réduits chrétiens. Il s'y ajoute un débat violent sur la question des livraisons d'armes américaines à l'Arabie saoudite. Haig condamne l'action brutale des Syriens et estime qu'elle est directement liée à sa tournée dans la région, et les États-Unis entament des contacts urgents avec les capitales concernées par la crise. Omnibilé par la guerre froide, le secrétaire d'État interprète l'action syrienne comme une nouvelle machination soviétique. Pour les Israéliens, la menace soviétique a pour avantage de faire passer le dossier palestinien au second plan et l'inconvénient de voir les Américains procéder à un réarmement arabe face à la menace soviétique. En Jordanie, le roi Hussein rejette toute perspective de consensus stratégique et donne la priorité au dossier palestinien. En Arabie saoudite, Haig a des interlocuteurs plus complaisants car le royaume s'estime menacé par le renforcement de la présence soviétique dans la corne de l'Afrique. C'est le moment où les soviétiques investissent massivement en Éthiopie. Et les Saoudiens insistent sur la nécessité de conclure le contrat d'armement avec les États-Unis. Alors en fait, il faut bien comprendre que cette histoire de contrat d'armement a une phase cachée et une phase ouverte, si j'ose dire. Officiellement, il s'agit de livrer un certain nombre d'avions de combat et de matériel de combat de façon plus générale à l'armée saoudienne. Mais en réalité, cet armement, l'Arabie saoudite n'est pas capable de l'utiliser. Il faut pendant une période assez longue que des conseillers américains encadrent l'armée saoudienne pour théoriquement enseigner aux Saoudiens à se servir de cet armement. Autrement dit, le contrat d'armement en question permet une présence militaire américaine en Arabie saoudite sans le dire, ce qui concerne ce qui est aussi bien l'avantage des États-Unis que de l'Arabie saoudite. La vraie question à ce moment-là, c'est de savoir qui sera le véritable partenaire des États-Unis entre Israël, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Le résultat inévitable et de ce qui était au départ un projet stratégique de politique étrangère, contrer la menace soviétique, devient un enjeu essentiel de politique intérieure américaine, puisque la stratégie israélienne est de bloquer, par l'action intérieure aux États-Unis, les contrats et associations qui sont en train de se nouer entre l'Égypte et l'Arabie saoudite et les Américains. Et le roi Ronald Reagan ne comprend pas la réaction de la communauté juive américaine. Les Juifs n'ont jamais eu un meilleur ami d'Israël à la Maison-Blanche que lui. L'Arabie saoudite est la clé du système politique moyen-oriental. Si l'Arabie saoudite suit la voie de l'Égypte, le reste de la région suivra. La paix israélo-arabe est la condition de la stabilité de la région, indispensable pour réduire la menace d'une expansion soviétique. Donc, avec tout ça, vous avez le droit à une pause de 5 minutes, en plein feuilleton, comme il se doit.